Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du mardi 20 mars 2018. Hélène Denis qui vous accompagne. Et c'est Maurice Bolduc qui est là.
Oui, bonjour.
Va?
Oui, vous-même.
Oui, oui, il nous reste plus grand temps avant que l'hiver nous quitte, même si ça ne paraît pas vraiment. Mais le soleil brille, les oiseaux chantent, mais il fait froid.
Oui, mais bon, on s'habille. Mais il paraît que c'est aujourd'hui le printemps, non?
Ben, c'est ce que je viens de dire. Il reste peu de temps avant que le printemps arrive. Ben oui, je l'ai pas dit officiellement. À midi 15.
Ah, c'est à midi 15. OK, OK,
ouais,
OK.
À midi 15, on va se transformer en bourgeon.
OK, c'est bon. nous éclorons.
Oui. Alors,
ben, bon
est-ce
printemps.
Que vous avez... Ben merci, hein? Un petit peu à l'avance, mais bon printemps quand même.
Ouais.
Changement de saison, ça va faire du bien.
Ouais,
juste
oui.
Mentalement.
Mm-hmm.
Ouais. Alors, allez-y, Maurice.
Oui, aujourd'hui, beaucoup de journées internationales et mondiales. Et je les défile, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire aujourd'hui. C'est la journée mondiale du bonheur, ça donne bien, c'est le printemps,
ah,
donc soyons heureux.
Bonne journée du bonheur.
C'est la journée mondiale du moineau, ah, pourquoi pas. La journée internationale du macaron, donc pour se sucrer le bec. La journée internationale sans viande.
Hé, hey, qu'il y en a des journées!
Oui, c'est ça, il m'en reste deux encore. C'est la journée mondiale du compte. Et c'est la journée internationale aussi de la francophonie. En veux-tu, en voilà.
Hein? Oui.
On a le choix. Donc, vous pouvez soit la francophonie, soit sans viande, soit le conte et le bonheur. On a le choix.
On réunit toutes ces journées, puis on essaie d'en faire une seule.
Uh-huh.
On mange des macarons, on ne mange pas de viande, on se raconte des histoires, on est heureux, puis c'est le printemps.
Et le tout en français.
Oui.
Et voilà. Ça résume tout.
C'est bien important.
Ouais. Quelques événements en 44 avant notre ère, dans une lecture publique, c'est le testament de Jules César qui faisait d'Octave son héritier. En 1602, c'est la fondation de la Compagnie des Indes orientales qui détiendra un monopole sur le commerce dans l'Est pendant près de 200 ans. En 1878, le téléphone est installé à Terre-Neuve. On saute ici. En 1956, le gouvernement canadien autorise la vente d'or aux particuliers. En 1969, c'était le mariage de John Lennon et Yoko Ono à Gibraltar. En 1976, c'est le début aux Philippines du tournage épique du film Apocalypse Now, oui, de Francis Ford Coppola. En 1983, dans le territoire de la baie James, c'est la mise en eau du barrage LG4. En 1995, moins rigolo, des adeptes de la secte Shimeri-Kyo libèrent du sarin, un gaz dans le métro de Tokyo. 12 personnes vont mourir et plus de 5000 autres seront intoxiquées. À Londres, en 1996, Londres admet que la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme est liée à l'encéphalopathie spongiforme bovine ou communément appelée la maladie de la vache folle. Et de là, l'Union européenne imposera un embargo à la viande anglaise. En 1999, à bord du Betling Orbiter, deux Européens bouclent au-dessus du Maroc le premier tour du monde en ballon sans escale. Ils ont fait donc en 19 jours 44 000 km. Et aussi, on se rappelle qu'en 2004, Stephen Harper était élu chef du Parti conservateur du Canada pour devenir premier ministre 2 ans plus tard. De une naissance, c'est l'ancien, on parlait du Parti conservateur, tiens, l'ancien premier ministre, Brian Mulroney naissait aujourd'hui, en 1939, et on souligne le décès du mathématicien et astronome Isaac Newton qui décède en 1727. Et voilà, ça fait le tour de ce 20 mars.
Ça veut dire que M. Mulroney aura 80 ans l'an prochain.
Ah oui, donc, on l'a vu récemment à la télé, il a l'air en forme.
Oh oui.
C'est un peu comme Jean Chrétien, là, tu sais, Jean Chrétien, ça a 80 ans.
Oh oui, ce sont des gens actifs, sportifs. Oh oui. En tout cas, pour Jean Chrétien, je sais qu'il fait beaucoup de sport, puis
vu en deltaplane, il y a 2 ou 3 ans, avec 80 ans passés, donc chapeau.
Oui, téméraire. Ouais. Merci, Maurice. À la une de la presse, Facebook en fâcheuse posture. L'action de Facebook a dégringolé hier après les révélations au sujet des données de millions d'utilisateurs détournées par une société liée à la campagne de Trump. Cette crise existentielle, entre guillemets, forcera-t-elle le géant des réseaux sociaux à revoir son modèle économique? Il faut se réveiller, prévient un expert et assujet la chronique de Marie-Claude Lortie intitulée « La fin de l'innocence ». Dépotoir illégal en Montérégie, un danger grave pour la santé. Élu, le PQ enverrait le REM sur une voie de garage. Et Montréal veut redonner son lustre au parc La Fontaine. La chronique de Marie-Claude Lortie intitulée « La fin de l'innocence ». On le sait, on le sent, on s'en doute. On se dit souvent qu'il y a sûrement quelque chose de hasardeux à passer du temps sur les réseaux sociaux, à dire un tas de trucs sur sa vie. Un « j'aime ici », un partage par là, une photo, 10 photos, une indignation, une adoration. On se parle, on s'amuse, on réagit, on s'informe, mais surtout, on se dévoile. On n'est pas fou. Souvent, sans l'exprimer trop fort, de peur d'avoir l'air parano, ringard, de voir d'une théoriste du complot névrosé, on se dit quand même dans son fort intérieur que c'est risqué. On soupçonne que la confidentialité de nos vies n'est pas nécessairement bétonnée. On dit à nos enfants de faire attention, de ne pas trop se dévoiler sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, on ne fait pas grand-chose pour répondre à nos propres inquiétudes. On se dit qu'on est bien capable, après tout, de résister aux publicités de vacances aux Bahamas ou de chaussures trop belles qui viennent nous hanter, propulsées par toutes les traces électroniques laissées par nos passages sur différents sites web. On se dit que si on évite les photos trop personnelles et les aveux embarrassants, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver. On se dit « est-ce si grave? » Oui, c'est si grave. Bien pire encore qu'on ne le pensait. On l'a appris le week-end dernier dans un reportage percutant mené conjointement par le journal britannique The Observer et le New York Times. Les données de quelques 50 millions de profils Facebook ont été utilisées, sans que leurs détenteurs en aient été conscients ni même avertis, pour servir à un vaste exercice ciblant les électeurs américains dans la marche vers l'élection de Donald Trump. Et qui a fait ça? La société Cambridge Analytica, spécialiste de l'analyse et de l'utilisation de données, embauché par la campagne de Trump et dont Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, fut un fondateur. Et comment on le sait si clairement? Parce qu'un Canadien d'origine, un gars de 28 ans de la Colombie-Britannique, spécialiste des données, des algorithmes et surtout des mécanismes pour analyser les données et s'en servir pour influencer certains publics cibles, Christopher Wiley, ou Wiley, qui a travaillé pour les libéraux fédéraux avant de partir travailler et étudier à Londres, puis qui a été au cœur de toutes les opérations de Cambridge Analytica jusqu'en 2014, a décidé de vider son sac en public, parce qu'il regrette ce qu'il a fait. « C'est moi qui ai créé l'arme de guerre psychologique de Steve Bannon », dit Christopher Wiley à l'Observer. La nouvelle a ébranlé Facebook, à qui on reproche d'avoir mal réagi face à cette brèche dans ses données. Le titre du réseau social a fini la journée d'hier avec une baisse de près de 7 %. Officiellement, la société Cambridge Analytica est une entreprise spécialiste des campagnes électorales qui a toujours dit savoir utiliser les données publiques avec doigté et efficacité pour gagner des campagnes. Elle a toujours nié utiliser des données privées obtenues de façon non éthique. Mais autant le témoignage de Wiley qu'une autre enquête de l'Observer et de la chaîne de télé britannique Channel 4, où des journalistes se sont fait passer pour des clients potentiels, montre que l'entreprise n'a pas grand frontière morale pour arriver à ses fins politiques. Fausses nouvelles, scandales créés de toutes pièces, embauche d'ex-espions et non-respect des lois électorales. Cambridge Analytica nie aussi utiliser des données obtenues sans suivre les règles. Mais ce qu'on apprend maintenant, c'est que le système que la société a construit pour cibler les électeurs américains part d'une étude supposément académique menée à l'Université Cambridge, à laquelle des dizaines de milliers de participants issus de Facebook, payés, ont accepté de participer, mais sans donner leur accord pour que cela devienne commercial et politique. C'est cette opération de profilage bâtie à partir de données qui peuvent sembler banales, mais interprétées pour leur donner un sens politique précis, qui a grossi et s'est étendu pour atteindre des dizaines de millions d'Américains à travers le réseau social. Que doit-on tirer comme leçon de tout cela? À part que l'élection de Trump et la victoire du Brexit, sur laquelle Cambridge Analytica a aussi travaillé, voient leur légitimité remise en question? que le moindre « j'aime » sur les réseaux sociaux peut avoir un sens pour les analystes qui veulent nous influencer, commercialement, mais aussi politiquement. Imaginez si on en dit plus. Il ne faut pas être naïf. Les réseaux sociaux, gratuits, doivent faire leur argent quelque part. Nos données sont leur richesse. Que les autorisations sur le partage d'informations qu'on nous demande d'accorder à cœur de jour lorsqu'on est sur Internet devraient toujours être scrutées à la lettre, chose difficile quand on n'est pas avocate ni spécialiste de la chose, surtout que ces ententes changent constamment. Mais la vigilance doit être de mise, le plus possible. Cela dit, les autorités doivent changer les règlements protégeant les consommateurs et internautes pour que ces informations légales cruciales soient plus facilement compréhensibles. Les données sont le nouveau pétrole. Ce sont des ressources qui nous appartiennent. On est en droit de savoir où elles s'en vont, ce qu'on en fait, sans qu'on ait besoin d'un doctorat en droit comparé pour comprendre ce qui en est. Au Canada, les lois sur la protection des données privées dans un contexte commercial ont une portée plus large qu'aux États-Unis. Mais comme l'a souligné hier le commissaire à la vie privée du Canada, Daniel Therrien, les partis politiques, en revanche, ne sont pas encadrés et ils s'en inquiètent. Donc, à l'ordre du jour, en plus de demander des comptes à Facebook et aux autres aussi, de manière préventive, pour savoir quels sont leurs engagements et leurs politiques, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, donc en plus de cela, il faut exiger de nos élus des balises précises pour limiter hyper strictement l'utilisation des données personnelles par les partis et organisations politiques. Le Royaume-Uni et les États-Unis font maintenant face à une remise en question de la légitimité du fruit de deux processus démocratiques. Personne n'a envie de passer à travers cela. Chers politiques, chers citoyens, au travail. Exclusif à la presse, un gouvernement péquiste enverrait le REM sur une voie de garage. Porté au pouvoir, un gouvernement du Parti québécois mettrait pour l'essentiel au rancard le projet de réseau express métropolitain de la Caisse de dépôt et placement du Québec. En lieu et place, le gouvernement Lisée proposerait un réseau de tramways plus modeste et moins coûteux et s'appuierait davantage sur les trains de banlieue et le métro. Le chef du PQ, Jean-François Lisée, doit ce matin annoncer la stratégie de son parti en matière de mobilité pour Montréal dans une conférence de presse depuis son bureau de chef de l'opposition à la place Ville-Marie. Et toujours concernant le transport, cette fois-ci à Québec, Régis Labombe a reçu hier un appui de taille pour son projet de tramway. La coalition Avenir Québec, la CAQ, s'est ralliée, malgré certaines réserves, au projet présenté vendredi en grande pompe. C'est un très beau projet, c'est un projet futuriste, moderne, qui dessert, comme on l'avait demandé, les banlieues de Québec, a réagi le chef de la CAQ, François Legault. On est très conscient que ce qu'on dit ne plaira pas dans un premier temps à des gens qui seraient favorables à la CAQ. En même temps, je pense que comme élu, on a le devoir de faire connaître notre opinion, a dit Éric Kerr, député de la CAQ de la région de Québec. Réchauffement climatique, 143 millions, nombre estimé de migrants climatiques d'ici 2050 selon la Banque mondiale. Ces migrants qui fuient une production agricole amoindrie, une pénurie d'eau ou la hausse du niveau de la mer vont se multiplier si rien n'est fait pour lutter contre ces effets des changements climatiques. Trump vante la peine de mort pour lutter contre le trafic de drogue. Donald Trump a présenté hier son plan de lutte contre les opiacés à l'origine de dizaines de milliers de morts par surdose chaque année aux États-Unis, martelant sa volonté d'encourager le recours à la peine de mort contre certains trafiquants de drogue. Mais au-delà du côté spectaculaire, l'annonce du président pourrait rester au stade du simple affichage politique, tant sa mise en application, sa portée exacte et son efficacité font l'objet de nombreuses interrogations.
Ses yeux sont de printemps qui me font sourire et ça me fait rire. Ses joues sont des torrents, les miennes s'y baignent, mais encore pire. Son cœur est une fête, le mien ne veut plus en sortir. Elle est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. C'est un tourbillon, un grand vertige complètement doux. On dit qu'en haute voltige, on peut tomber et se rompre le cou. C'est pas mon premier vol, arrêtez bande de jaloux. C'est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. En une folle frénésie, l'amour et les guides clairs et nos deux corps sont amphibies. La terre est un brasier, mais pour un moment l'oublier, c'est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. Qu'elle ne plaise à personne, ni du visage, ni de l'esprit. Restez en votre automne, l'été tourlant me fait plus envie. Persuadez-vous de mes yeux fermés, j'affirme en toute cécité, t'es la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. Assombrir quelques beautés, des êtres qui ont peur, qui veulent vous en contaminer. Me protéger des loups, moi qui n'en compte que les amis. T'es la plus belle saison de ma vie. T'es la plus belle saison de ma vie. Nous serons vieux et frêles, peut-être même séparés. Nos têtes pêle-mêle, incapables et usées. Mais aujourd'hui je t'aime, aujourd'hui pour l'éternité. T'es la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison.
Daniel Bélanger qui nous chantait « Les deux printemps ».
Et oui, ça en prendrait peut-être deux printemps, étant donné que celui qui s'en vient ne sera pas chaud. Midi 15, on vous le rappelle, en ce 20 mars, plutôt hivernal côté température, mais il y a du soleil. Et comme je le disais plus tôt, les oiseaux chantent et de toute façon, les températures vont devenir plutôt douces à partir de jeudi. On garde espoir. En une du Devoir de ce 20 mars, casque bleu, le Canada en mission au Mali. Le gouvernement est incapable de fournir les détails de son engagement. Il y a une photo sous laquelle on lit le chef d'état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, et le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, ont confirmé l'envoi au Mali d'hélicoptères et de troupes au sol. Le parc La Fontaine en 2033. Montréal esquisse les plans de son jardin du Luxembourg. Journée internationale de la francophonie pour un Français fier de lui-même. Le Français ne doit pas perdre son âme, dit Jean-Michel de la Comté. Jean-Michel de la Comté, auteur de Notre langue française. Martine Ouellet se soumettra à un vote de confiance anticipé. Vladimir Poutine en position de force devant les Occidentaux. Et culture, Vidéotron s'associe au nouveau Festival de l'humour. La filiale de Québécois devient partenaire fondateur du Grand Montréal Comedy Fest. Montréal veut redonner du lustre au parc La Fontaine en réaménageant ses sentiers, en réduisant la superficie des stationnements et en piétonnisant les avenues Calixa-Lavallée et Émile-Dupoyer. Le projet de plan directeur que présentera mardi soir le responsable des grands parcs de l'administration Plante, Luc Ferrandez, définit les grandes orientations d'aménagement de ce parc emblématique pour les 15 prochaines années. En février dernier, Luc Ferrandez avait donné un avant-goût de ce qu'il entrevoyait pour le parc La Fontaine. « Notre vision, c'est celle d'un jardin du Luxembourg à Montréal », avait-il expliqué. « Ce n'est pas un espace haché et hachuré de stationnement et de rues. C'est un grand parc romantique. Pour régler les perpétuels conflits entre les cyclistes et les promeneurs, la ville suggère de déplacer la piste cyclable nord-sud dans l'axe routier de l'avenue du parc La Fontaine. » Le secteur des bassins serait rénové. La ville propose notamment de ramener l'activité nautique avec la location d'embarcations et de créer une terrasse avec bistrot derrière le chalet-restaurant. Le plan confirme l'intention de la ville de rénover le théâtre de verdure fermé depuis 2014. La ville élaborera un plan d'action, mais pour l'instant, elle ne précise pas les coûts de tous ces travaux. Un budget de 30,6 millions de dollars est cependant prévu au cours des 3 prochaines années. La ville tiendra d'autres consultations les 17 et 18 avril prochains. Rappelons que le parc La Fontaine avait été inauguré en 1874 sous le nom de Parc Logan. Voitures autonomes. L'accident impliquant une voiture autonome d'Uber qui a coûté la vie à une piétonne lundi aux États-Unis ne devrait pas nous inciter à mettre un frein au développement de l'intelligence artificielle, IA, dans ce secteur, estime un expert américain. La collision mortelle survenue dans la ville de Tempe, en Arizona, a eu lieu alors que le véhicule roulait en mode autonome, avec un opérateur derrière le volant. La victime a traversé la rue en dehors d'un passage piétonnier, a indiqué Uber. Cet accident est fâcheux, affirme Jyoti Piriyazami, le scientifique en chef des données chez ExpertFi, mais il est sans doute attribuable au fait que le système guidant la voiture autonome n'a pas réagi adéquatement à un imprévu. Il peut survenir des situations où le modèle ne comprend pas les circonstances. Je ne condamnerai pas le système simplement parce qu'un accident est survenu. Il faut déterminer les circonstances de l'accident et découvrir sa cause pour améliorer le modèle. Le Parti libéral du Québec a retiré, en début d'après-midi lundi, un extrait d'une entrevue donnée par l'auteure et comédienne Christine Beaulieu, auteure de la pièce « J'aime Hydro », qui avait été utilisée sans son consentement dans une publicité diffusée en matinée sur les réseaux sociaux. L'extrait proviendrait d'une entrevue diffusée à Télé-Québec. La publicité des libéraux d'une durée de 50 secondes s'en prenait au projet de B. James du 21e siècle de la coalition, dis-je bien, Avenir Québec, la CAQ. Les recours judiciaires sont écartés pour l'instant. La suspension de l'enquête sur les femmes autochtones réclamées. L'organisme Femmes autochtones du Québec juge que le volet juridique est négligé et demande des ajustements. Cette commission-là se développe sous forme de vérité-réconciliation. On accorde beaucoup d'espace pour les familles et c'est très bien, mais l'aspect juridique est important si on veut obtenir justice, soutient Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, la FAQ. L'ANFADA, donc l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui a jusqu'à présent entendu à travers le pays 763 témoins lors de 134 audiences publiques et de 103 audiences à huis clos, estime avoir été claire dès le début. La commission a deux phases, la première étant celle de consignation de la vérité, puis la deuxième étant celle d'investigation et les deux se chevauchent, indique la commissaire Michèle Audette. La ministre des Relations couronnes autochtones et des affaires couronnes autochtones et des affaires du Nord, Caroline Bennett, évalue toujours la demande déposée par les membres de la commission. La décision devrait être rendue d'ici la fin du mois d'avril. Si ça continue dans le même sens, on n'aura toujours rien validé, affirme Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec. La hausse de l'achalandage a généré une forte augmentation des revenus chez Aéroports de Montréal en 2017, mais les dépenses d'exploitation ont également bondi, résultat des améliorations apportées à l'Aéroport Montréal-Trudeau. Les revenus d'ADM, donc Aéroports de Montréal, l'organisme sans but lucratif qui gère également l'aéroport de Mirabel, ont cru de 10 % à 579,7 millions. Le nombre de passagers a augmenté de 9,5 % à 18,2 millions. Les charges d'exploitation de l'organisme, qui fonctionne avec un nouveau PDG, ont grimpé de 11 % à 196,2 millions. En tenant compte des autres dépenses, comme le loyer à Transport Canada et l'amortissement des immobilisations, l'ensemble des coûts atteint 540 millions. Depuis janvier 2017, ADM est dirigé par Philippe Rainville. L'organisme a récemment annoncé des investissements afin de renouveler son équipement hivernal, qui lui permettra de composer avec des variations notables des conditions climatiques. Seulement en 2017, il y a eu 13 jours de verglas, a noté ADM. Restez avec nous, la suite de l'émission Le quotidien des quotidiens à venir avec la revue de presse du Journal de Montréal et la revue des journaux régionaux.
Sa peau. Je bois mon pastis au bar avec le chef de gare.
je me garde n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Et les gens rient de moi.
Qui c'est celui-là? Complètement gaga.
Cette terre, tout n'était que vice. C'est que pour faire des affaires, je manquais de malice. Je montais dans mon engin interplanétaire, et je ne remis jamais les pieds sur la terre. Les hommes disent de moi,
qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce n'est pas
gala.
Complètement gaga. Il a un rôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars, elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là?
On vient d'entendre Camille Basbaz qui nous réinterprétait « Qui c'est celui-là ?»
Du Journal de Montréal, un autre entraîneur en prison, Mario Roy, un instructeur d'équitation des Laurentides qui a profité de sa position pour extorquer des faveurs sexuelles à trois adolescentes, a été condamné à 6 ans de prison. Québec paie 8 millions pour un projet minier incertain. Pascal veut un dernier combat au Québec. On a une photo du boxeur Jean Pascal. Blanchi une 12e fois avec le sigle des Canadiens de Montréal. Québec paie 8 millions pour un tas de roches. Le gouvernement a payé le gros prix pour sortir une minière torontoise de l'impasse avec les Algonquins. La compagnie Copper One, qui a empoché le magot, n'a même jamais réalisé un seul forage sur le site de l'Abitibi pour prouver son potentiel minier. En fait, elle n'a fait aucun travail sur ce terrain racheté à une minière junior. Les millions versés par Québec sont un bon pour Copper One, qui tentait depuis 6 ans de travailler dans ce territoire revendiqué par les Autochtones, qui s'oppose à l'exploration minière. Les Algonquins de Lac Barrière menaçaient de dresser un barrage afin d'empêcher Copper One de se rendre sur sa propriété de Rivière-Dorée dans la réserve faunique La Vérendrye. Pour sortir de l'impasse, la société a fait appel à 2 ex-libéraux devenus lobbyistes, ainsi qu'à l'ancien ministre fédéral libéral Pierre Petitgroux. Au cabinet du ministre des Ressources naturelles Pierre Moreau, l'attaché de presse n'a aucune explication à partager avec le public. Le gouvernement régularise par la voie de la négociation une situation d'exception avec une entente confidentielle, écrit son attaché de presse Catherine Poulin. La chronique de Richard Martineau intitulée « Montréal et Québec, ça sent mauvais ». Vous souvenez-vous du scandale de la double facturation pendant la construction du stade olympique à Montréal? Des camions malaxeurs remplis de béton entraient sur le chantier et leurs conducteurs facturaient leur chargement. Puis les camions traversaient le chantier, sortaient par une porte et faisaient le tour pour rentrer par une autre porte. Les camionneurs pouvaient ainsi facturer deux ou trois fois le même chargement. Le tube dans la pâte à dents. Je pensais à ça hier en lisant le dossier du bureau d'enquête sur le scandale de collecte d'ordures à Montréal. Une entreprise privée payée par la Ville de Montréal pour ramasser les ordures dans les rues de l'arrondissement de Verdun passait sur ses factures des vidanges qu'elle ramassait à Brossard, à Boucherville, à Carignan et à Belleuil. L'entreprise était payée au poids. Alors, plus de vidanges ramassées, plus de fric dans ses coffres. Le pire est que la ville avait des outils lui permettant de surveiller les allées et venues des camions de l'entreprise, des balises GPS, une balance. Mais la ville ne vérifiait pas les données des balises et la balance servant à peser les camions de vidange avant et après leur collecte était brisée. Résultat, les fraudeurs pouvaient voler la ville en toute tranquillité sans être embêtés. Ce qui nous amène à la question que je ne cesse de poser dans cette chronique. Voulez-vous me dire pourquoi nos gouvernements et nos administrations municipales ne surveillent pas plus attentivement la façon dont on dépense notre argent? On a l'impression qu'on se dit bof, de toute façon, l'argent public, c'est comme le dentifrice. Tu penses qu'il n'en reste plus, mais il y en a encore. T'as juste apprécié un peu plus le contribuable. Si nos administrateurs payaient de leur poche, vous pouvez être sûr qu'ils seraient vigilants. Mais c'est de l'argent public, qui appartient à tout le monde, donc à personne. Alors, on paie les factures, sans rien vérifier. Comme Mario Dumont l'écrivait l'autre jour, le gouvernement fédéral a récemment décidé de vérifier comment on dépensait les deniers publics dans certains ministères et organismes. Eh bien, croyez-le ou non, à la fin de l'exercice, ils ont conclu que tout était correct. Pas un sou n'est dépensé inutilement. Tout balance. Il n'y a aucun, écrit ici en majuscule, gaspillage. Voulez-vous rire de nous? Nous prenez-vous pour des caves? Un autre qui nous prend pour des caves, Régis Labombe. Pendant sa campagne, le maire de Québec était contre un projet de tramway et là, il présente un projet de tramway. « Je vais profiter des débats pour dire la vérité aux gens », a-t-il déclaré le 14 octobre 2017. Pardon. « Moi, ma ligne est très simple. Il faut bien expliquer ce qu'on fait. Il faut informer la population. Ça sert à ça, des débats. »« Ah oui ?» écrit Richard Martineau. C'est drôle, mais je ne me souviens pas que M. Labombe ait informé la population sur son projet de tramway pendant sa campagne. J'imagine qu'il a vu la lumière ces dernières semaines. Bien tiens, point de suspension. Les Français doivent accepter la défaite. La fromagère québécoise défend son titre de meilleur camembert. Le camembert, l'extra de la coopérative Agropure de Saint-Hyacinthe, a remporté la première place au World Championship Cheese Contest qui se tenait au Wisconsin aux États-Unis. Or, plusieurs spécialistes français se sont indignés qu'un fromage fabriqué avec du lait pasteurisé ait pu gagner alors que le camembert doit être normalement fait avec du lait cru, selon la tradition normande. Ce n'est pas du camembert, c'est un fromage industriel sur lequel on a mis le mot camembert, a lancé le critique gastronomique français Perico Legas sur la chaîne LCI. Maître c'est bien écrit LCI, mais j'imagine que c'est LCN ou RDI, un mélange des deux, je ne sais pas. C'est écrit LCI.
LCI, c'est la chaîne française.
Ah oui, d'accord. Merci Maurice. Maître fromagère chez Agropure Saint-Hyacinthe depuis 2009, Nathalie Bay n'a pas nié qu'il s'agissait bel et bien d'un fromage fabriqué à partir de lait pasteurisé et non de lait cru. Selon elle, sa recette doit tout de même être considérée comme un fromage à pâte molle de type camembert. Tous les aspects techniques sont évalués par un jury de 50 experts de différents pays. Pas moins de 17 camemberts de partout dans le monde ont été présentés. C'est le nôtre qui a gagné et nous en sommes très fiers, a fait valoir la maître fromagère hier. Des consommateurs ont perdu confiance en Loblaw. Une étude montre que l'entreprise a moins la cote depuis le cartel du pain. Les cartes de 25 $ remises par Loblaw pour s'excuser d'avoir fixé le prix du pain pendant près de 15 ans semblent ne pas lui avoir suffi pour retrouver la confiance du public, selon une nouvelle étude. Loblaw a un peu perdu la cote, mais c'est toute l'industrie qui a écopé à cause du scandale du cartel du pain, soutient Sylvain Charlebois, doyen à l'École d'administration de l'Université Dalhousie à Halifax. Une nouvelle étude menée par son équipe montre que les consommateurs ont perdu confiance envers les grandes chaînes depuis novembre 2017. Parmi toutes les chaînes, c'est Costco qui obtient la plus grande confiance des consommateurs, conclut l'étude de l'Université Dalhousie. Toujours aucune trace du petit Ariel. La récompense est maintenant de 75 000 $. Des plongeurs ont sillonné pour la première fois en une semaine hier les eaux glaciales de la rivière des Prairies à la recherche du jeune Ariel Jeffrey Kouakou, introuvable depuis plus de 7 jours. Les recherches étaient concentrées autour du parc des Bateliers, situé entre la rivière et le boulevard Gouin-Ouest, dans l'arrondissement d'Ansic, quartier-ville à Montréal. Il s'agit du dernier endroit où l'enfant a été vu lundi dernier. Les plongeurs continueront leur travail aujourd'hui. Le printemps débute officiellement aujourd'hui dans l'hémisphère nord. Montréal connaîtra des températures très en deçà des normales avec un maximum de moins 4. Cela dit, le sud du Québec n'est pas la seule région du monde à connaître un début de saison assez timide. En effet, le vignoble qu'on nous montre en photo du village de Chamery, près de Reims, en Champagne, est couvert de neige et le mercure était hier largement sous le point de congélation. Des vignerons s'affairent tout de même à attacher les ceps en prévision des beaux jours. Des températures plus clémentes sont prévues dès la semaine prochaine dans ce terroir où est produit le célèbre vin mousseux.
Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps. Viens, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César, car les enfants défient les grands. Quand vient le temps de l'esclavage, le temps du long dressage, le temps de subir est passé. C'est assez le temps des sacrifices, se vante à bénéfice, le temps de prendre est arrivé. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps. Vient, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César, car les enfants défient les grands. Quand vient le temps des révérences, le temps du long silence, le temps de se taire est passé. C'est le temps des muselières, se meurt dans la fourrière, le temps de mordre est arrivé. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps. Viens, un nouveau jour va
se lever et son regard se moquera de l'autorité de César. Car les enfants défient les grands. Combien de temps, combien de temps.
Jacques Michel nous chantait « Un nouveau jour va se lever ».
Les journaux régionaux, un sommet du vivre ensemble à Gatineau en avril, c'est dans Le Droit, Mathieu Bélanger qui signe l'article, une dizaine de fonctionnaires, politiciens et représentants d'organismes voués à l'intégration des immigrants et des différentes communautés culturelles étaient réunis lundi matin à la Maison du citoyen pour annoncer ce qui serait une première au Québec. La ville de Gatineau tiendra en avril prochain un premier sommet du vivre ensemble. L'événement germe dans la tête du maire Maxime Penneau-Jobin et des différents partenaires des communautés culturelles depuis l'attentat à la mosquée de Québec il y a un peu plus d'un an. Ce sommet sera l'occasion d'engager un dialogue entre les différents intervenants et le reste de la population afin de trouver des solutions à une meilleure intégration sociale et économique des immigrants. Le vivre ensemble est probablement le plus grand défi de notre génération de dirigeants, a lancé le maire de Gatineau. Selon lui, Gatineau a une occasion précieuse devant elle de mobiliser tous les acteurs pertinents pour un tel sommet. Gatineau n'a pas vécu d'événements traumatisants comme celui de Québec, mais cela ne veut pas dire qu'elle est à l'abri d'événements malheureux découlant de l'extrémisme. C'est pour ça qu'il faut en profiter pour poser des gestes pendant que ça va bien, parce qu'après, c'est souvent plus difficile, note M. Penneau-Jobin. Gatineau, le deuxième pôle d'immigration au Québec après Montréal, invite donc toute la population à s'inscrire à ce sommet du vivre ensemble qui se déroulera le 20 avril prochain de 8h30 à 16h à la Maison du citoyen. Des plénières, des panels, un exercice de consultation sur les priorités d'action à mettre de l'avant et des prestations artistiques sont prévues. Les citoyens et organismes désirant participer au sommet du vivre ensemble peuvent s'inscrire d'ici le 6 avril. Et toujours dans Le Droit, qui fait la une, Yvonne Dubé reste en poste chez GFGSO. Yvonne Dubé, l'auteur d'une plainte pour harcèlement criminel ayant mené à l'arrestation d'un journaliste la semaine dernière à Gatineau, garde son poste de directrice des grands frères, grandes sœurs de l'Outaouais, GFGSO, une décision prise de manière unanime par les membres du conseil d'administration de l'organisme. Dans un communiqué reçu lundi après-midi, mais daté de mardi, le président du conseil d'administration des GFGSO, Richard Gravel, vante les progrès de l'organisme depuis l'arrivée en poste de Mme Dubé en 2015. À ce moment, l'organisation avait un chiffre d'affaires de 476 000 répondant aux besoins de 100 enfants, lit-on dans le communiqué. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est de plus de 1 million de dollars, tout en répondant aux besoins de 500 enfants, ce qui représente une croissance exceptionnelle. Le conseil d'administration note aussi que l'organisme est en nomination pour un prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux. La décision du CA a été unanime, à savoir que les administrateurs maintiennent le contrat de travail de la DG, ainsi que sa confiance, est-il écrit. Nous savons que dans la région de l'Outaouais, plus de 1000 enfants sont dans le besoin. Le CA demande à la population de soutenir les GFGSO en continuant de s'impliquer dans les activités afin de répondre aux besoins. L'organisme ne fait mention nulle part dans son communiqué de la controverse nationale ayant éclaté à la suite de l'arrestation du journaliste Antoine Trépanier la semaine dernière par le service de police de la ville de Gatineau. Le reporter de Radio-Canada Ottawa-Gatineau travaillait depuis plusieurs semaines sur un reportage ayant révélé que Mme Dubé a pratiqué le droit sans autorisation de septembre 2011 à mars 2012. Dans le quotidien, Denis Villeneuve, la présence à Saguenay du centre de soudage par friction malaxage de l'UQAC sera le prétexte pour la tenue du 26 au 29 juin prochain d'un symposium technique de calibre international qui rassemblera des experts du monde entier. Selon Lynn Saint-Georges, chercheuse et professeure en génie mécanique au département des sciences appliquées de l'UQAC, entre 200 et 250 chercheurs seront présents à l'hôtel Le Montagnier, dont 10 à 15 provenant du Canada pour partager leurs connaissances dans ce secteur d'avenir, donc le soudage. Soulignons que le soudage par friction-malaxage est une technologie encore récente qui permet d'effectuer des soudures à l'état solide sans faire fondre le métal. Développé à ses débuts par une entreprise de Grande-Bretagne pour la soudure de l'aluminium, la technique s'applique maintenant pour l'acier, l'acier-aluminium, etc. La soudure par friction-malaxage est maintenant une technique employée par de grandes entreprises comme Hitachi, Toyota, qui fabrique 1 million de voitures Prius avec cette technique, ou Airbus, qui fabrique son A380, explique Mme Saint-Georges. Même si le symposium s'adresse d'abord à des experts, Mme Saint-Georges croit qu'il est susceptible d'intéresser les industriels de la région soucieux de se familiariser avec la technique. Elle rappelle que le centre de soudage par friction-malaxage de Chicoutimi travaille déjà avec des entreprises régionales et québécoises pour le développement de prototypes. Dans le soleil, Jean-Michel Genois-Gagnon, alors que l'encre sur le contrat annonçant l'ouverture de l'enseigne Ricardo Boutique plus café aux galeries de la capitale est à peine sèche, le chef Ricardo regarde déjà pour faire des petits du côté d'Ottawa et de Toronto. Lundi matin, la direction du centre commercial de Le Bourg-Neuf et l'homme d'affaires ont confirmé, comme le révélait le soleil au début du mois de mars, qu'une boutique Ricardo installera ses pénates dès novembre dans l'ancien espace de Simons. Elle occupera un local de 9000 pieds carrés. L'investissement devrait avoisiner les 2 millions de dollars. On cherchait un endroit à Québec depuis 2 ans. On pensait même être capable d'ouvrir notre magasin dans la capitale avant celui de Laval, indique le chef Ricardo. Je tenais à avoir un emplacement, à voir avec une terrasse. C'est le fun de pouvoir manger à l'extérieur. Je ne suis pas un gars très asphalte. J'ai proposé de mettre des vignes et des arbres fruitiers à l'extérieur. Le centre commercial a aimé mon idée, poursuit-il. Il s'agira de la première boutique d'accessoires de cuisine pour Ricardo à Québec et la troisième de l'entreprise Ricardo Media à voir le jour après Saint-Lambert et Laval. Pour Ottawa et Toronto, Ricardo veut ouvrir ses magasins d'ici 4 ans. Il magasine déjà des locaux. Avec Québec, nous allons maintenant couvrir nos 3 marchés principaux au Québec, fait valoir l'homme d'affaires. Ottawa et Toronto, c'est dans notre ligne de mire. On regarde pour trouver le bon endroit. Je vais visiter des lieux et j'essaie actuellement de comprendre le marché. Il y a beaucoup d'espace pour grandir du côté du Canada anglais, poursuit celui dont la ligne d'articles de cuisine est vendue dans plus de 600 magasins au pays. Des négociations seraient aussi en cours pour ouvrir un café dans le Capitole de Québec. Ce dernier est actuellement fermé pour rénovation. Quant au local de 46 000 pieds carrés qu'occupait Simons dans les galeries de la capitale, il sera transformé en marché urbain avec 2 restaurants, notamment celui de Ricardo. Le second local sera composé d'un espace cuisine réservé aux démonstrations, aux ateliers et aux conférences liées à l'univers de l'alimentation. L'ouverture de cette nouvelle aile inspirée des grands marchés européens est prévue pour l'automne 2019. L'investissement devrait dépasser les 10 millions de dollars. Vous écoutez Canal M de Vues et Voix, c'est Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Revue de presse intitulée Le quotidien des quotidiens. Je vous invite à rester avec nous puisque la suite de l'émission s'amène après la chanson avec les actualités culturelles et aussi les sujets libres. We'll be right back.
J'ai trouvé mamie en haute montagne. La lune était ronde, le hibou muet.
En haute montagne, je l'y ai laissé. À la nuit tombante, j'irai la trouver. Mamie a les pieds comme biche vive. Sa peau est plus blanche qu'au pied de sapin. Si je la
Marie-Claire et Richard Séguin nous chantaient chansons démodées.
Actualité culturelle, le cirque, des accidents, malheureusement, ça arrive. Ébranlé par la chute mortelle de Yann Arnaud, les acrobates ne réclament toutefois pas de changement. C'est un article de Jean Siag. La chute mortelle de l'artiste de cirque français Yann Arnaud, samedi soir à Tampa, a beau soulever des questions sur la prise de risque et les mesures de sécurité des compagnies de cirque, les acrobates qui ont accepté de parler à la presse ne changeraient rien aux normes en place. Samedi soir, Yann Arnaud, 38 ans, exécutait un numéro de sangle aérienne à deux dans le spectacle Volta du Cirque du Soleil. Au moment de rejoindre son partenaire, alors qu'il était en mouvement, à une hauteur de 5 mètres, il a perdu sa sangle et s'est écrasé sur la scène. Il a succombé à ses blessures un peu plus tard à l'hôpital. Une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de la chute. Dimanche, le PDG du cirque, Daniel Lamarre, a toutefois écarté la possibilité d'une défectuosité dans l'équipement. Le spectacle doit reprendre dans 2 semaines au New Jersey, mais le cirque n'était pas en mesure hier de dire si le numéro de sangle allait être conservé. Bruno Gagnon, qui a travaillé pendant 5 ans avec le cirque sur le spectacle Corteo, admet que chaque accident tragique fait réfléchir les artistes de cirque. « C'est sûr qu'on réfléchit à ça », nous a dit l'artiste qui se trouve en France avec sa troupe Flip Fabric. « On vérifie nos équipements, on redouble de prudence, mais il faut savoir que c'est très rare de faire une chute en sangle. La main est vraiment bien prise avec un point d'ancrage. C'est une des disciplines aériennes les plus sécuritaires, plus que la barre russe ou le tissu, par exemple. Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il a eu un malaise? On ne sait pas. » Depuis quelques années, on a quand même l'impression que le nombre d'accidents mortels, 3 au Cirque du Soleil, ou avec des séquelles importantes, est en augmentation. Ce que Daniel Lamarre explique par le volume de spectacles du cirque multiplié par 1000. Une question demeure. Est-ce que les artistes de cirque prennent trop de risques? L'adrénaline qu'on ressent quand on fait un numéro dangereux, la réaction du public, les applaudissements, c'est notre première paye, affirme Bruno Gagnon. C'est un rapport complexe, mais le public vient lui aussi pour voir ce risque qu'on prend et pour avoir des frissons, même si on ne souhaite jamais qu'il y ait un accident en plein spectacle, l'artiste de cirque Bruno Gagnon qui s'affirmait là-dessus. Est-ce qu'on prend trop de risques en général? Je ne crois pas. D'ailleurs, il y a peu d'accidents vu le nombre de numéros, ajoute-t-il. L'artiste de cirque Maxime Girard, qui est devenu tétraplégique en 2013, après une chute en trampoline lors d'un spectacle à Oman avec la compagnie Millard Entertainment, a le même point de vue. C'est peut-être un triste constat venant de la part de quelqu'un comme moi qui vit avec les séquelles d'une prise de risque, mais le risque fait partie intégrante du métier. C'est ce qui le rend si extraordinaire, si beau, si intéressant. On parle de risque calculé, bien sûr. En fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Il faut connaître ses limites parce que c'est vraiment nous qui nous poussons, qui voulons être les meilleurs. Mais ce n'est pas toujours facile de connaître ses limites. Parfois, on a envie de pousser plus loin. C'est une question d'orgueil. Avec l'augmentation du nombre d'accidents, Maxime Girard croit qu'il faut prendre encore plus conscience du risque. On ne peut plus faire de la pensée magique et se dire que ça ne nous arrivera pas. Ça m'est arrivé. Et là, c'est arrivé à Yann, alors que normalement, les sangles, c'est hyper sécuritaire. Mathias Ploll, qui a travaillé avec le Cirque du Soleil dans les spectacles Z et Iris et les 7 doigts, a eu l'occasion de réfléchir à la question l'été dernier. L'artiste d'origine argentine a eu un traumatisme crânien lors d'une chute au mât chinois, dans un spectacle présenté sur une scène extérieure par Montréal complètement cirque. S'il n'y avait pas eu de tapis, je ne serais pas là, parce qu'on était dehors. Ça m'a sauvé la vie. Mais ça dépend des disciplines, indique celui qui est maintenant complètement rétabli. Moi, je ne crois pas que ça vaut la peine de mourir en faisant du cirque. Je veux faire autre chose plus tard, avoir des enfants, dit Mathias Ploll. Personnellement, je ne me suis jamais poussé trop loin. Si je suis fatigué, j'y vais plus tranquillement, c'est tout, explique M. Ploll. Mais des accidents, malheureusement, ça arrive. Comme ça m'est arrivé. Est-ce que certains artistes vont trop loin? Ça se peut, mais en général, je ne crois pas. La vérité, c'est qu'on peut mourir en faisant n'importe quoi. Malgré ce risque, c'est quand même mon métier. Mais je ne ferai jamais quelque chose qui pourrait mettre ma vie en danger. Et je suis sûre que c'était pareil pour Yann. Il y a moins de 2 ans, l'artiste de cirque Karina Silva Poirier, qui avait un numéro aérien dans le spectacle La Nouba du Cirque du Soleil, s'est fracturé le crâne après avoir fait une chute de 30 pieds lors d'une répétition. La jeune femme a miraculeusement survécu à l'accident, mais elle est toujours en réadaptation. La cofondatrice des 7 doigts de la main Gypsy Snyder n'a pas voulu commenter l'accident de Yann Arnaud, mais elle croit que le nombre d'artistes de cirque est en cause. Le risque est le même, mais aujourd'hui, avec la multiplication des sports extrêmes et du nombre d'artistes de cirque, j'ai l'impression que cette prise de conscience du risque est peut-être moins bien comprise. Il reste que c'est l'essence du cirque, dit Mme Snyder, cofondatrice des Sept Doigts. Est-ce qu'avec la popularité croissante du cirque et le nombre de plus en plus important de spectacles qui sont présentés, les artistes ne vont pas un peu plus loin qu'avant? Oui, plus les gens prennent des risques acrobatiques élevés, plus ça entraîne les autres à en prendre, admet Gypsy Snyder. Par contre, on a une règle d'or. Si un artiste n'est pas dans son élément, on ne se sent pas capable de faire un numéro. Pour quelque raison que ce soit, on lui dit de ne pas le faire. Même si c'est au milieu du spectacle, on s'en fout. Je parle toujours à nos artistes de l'intelligence de l'acrobate. Il n'y a rien de plus facile que d'enlever un numéro ou de le remplacer par autre chose. On adapte le spectacle. Si on n'est pas capable de faire un show qu'on va pouvoir jouer 8 fois par semaine, ça sert à quoi? La face cachée de la Lune, extraordinaire spectacle solo créé par Robert Lepage il y a près de 20 ans, sera de retour à Montréal du 3 avril au 11 mai 2019 au Théâtre Jean Duceppe. Cette pièce culte du créateur de Québec qui a été montée pour la première fois en 1999 et qui a été adaptée au cinéma par Lepage en 2004, raconte l'histoire de deux frères qui font face à la mort récente de leur mère. Yves-Jacques, qui a pris le relais de Robert Lepage à l'affiche de la pièce depuis 2003, il la jouait encore l'automne dernier à la Grande Halle de la Villette à Paris, incarne à lui seul tous les personnages. Une performance qui demande une virtuosité hors du commun dans une pièce à voir ou à revoir. Les billets sont en vente depuis hier midi. Après 22 ans à la direction générale des Grands Ballets canadiens de Montréal, Alain Dansigère quittera ses fonctions à la fin de l'année pour se consacrer à ses projets personnels. Le temps est venu de me tourner vers d'autres aventures et de m'ouvrir aux belles surprises que nous réserve la vie, a indiqué M. Dansigère ou Dansigé dans un communiqué. Un comité de sélection sous la présidence de la présidente du CA, Constance V. Patty, sélectionnera le successeur de M. Dansigère dans le but d'assurer une transition harmonieuse. Et le divan orange affichait complet dimanche soir pour le spectacle d'Avec pas de casque, le dernier de l'établissement du boulevard Saint-Laurent qui doit fermer ses portes. Il y avait de l'émotion, de la tristesse et de la nostalgie dans l'air. De multiples représentants de la scène musicale, jadis appelée locale, c'était donné rendez-vous dont n'avait confié Safia Nolin et des membres du groupe Canaille. Stéphane Lafleur, le chanteur et parolier d'Avec pas de casque, a dit d'un ton doux amer se sentir dans une sorte de conventum rock. Lors d'un vibrant discours de remerciement au nom de tous les anciens employés, Michel Tremblay a rendu hommage à un lieu de rencontre, de découverte et d'amis. Après de nombreux spectacles mémorables, Patrick Watson, Cœur de pirate, Lassa de Sella, Fleet Foxes, etc., depuis son ouverture en 2004, le divan orange doit fermer pour des raisons financières. Pour l'avenir de la scène émergente, les membres de son ancienne coopérative demandent aux différentes instances gouvernementales de soutenir les petits lieux de diffusion qui sont considérés comme des bars, donc qui n'ont aucune subvention. Thank you.
On vient d'entendre en trio Ariane Moffat, Karim Ouellet et La Bronze qui nous chantaient « Aimons-nous ».
Libre, journée internationale de la francophonie pour un Français fier de lui-même. Le français ne doit pas perdre son âme, dis-je bien, dit Jean-Michel Delaconté. C'est Christian Rioux dans Le Devoir d'aujourd'hui, correspondant à Paris. On entendait à la radio un chanteur marmonner des paroles incompréhensibles. Impossible de distinguer le moindre mot. Mais pourquoi a-t-on si peur de se faire comprendre, demande Jean-Michel Delaconté. Comme si l'on avait honte de chanter en français. À la terrasse du café Le Pierrot, à deux pas du métro aérien de la Motte-Piquette, ce spécialiste de Racine et de Saint-Simon parle de ce qu'il décrit comme un aplatissement de la langue. Quand j'entends des gens qui murmurent, qui n'osent pas parler leur langue, qui la maquillent sous des couches de poudre anglo-saxonne, je dis que c'est de la soumission. Je ne supporte pas la honte que nous semblons avoir de notre langue. Qui se manifeste par l'anglomanie dans la langue standard. L'anglais dans le commerce ne me gêne pas du tout, mais je ne supporte plus les fake news et autres start-up. J'ai honte de la honte de mes compatriotes. Pourquoi cette honte de soi? C'est cette douleur que Jean-Michel Delaconté a voulu exprimer dans un essai tonique au titre symbolique « Notre langue française » publié chez Fayard. N'ayez crainte, l'écrivain n'y parle pas de la langue française, plutôt de la nôtre, de cette langue de chair qui se tient au plus près de l'intimité et qui s'accouche au forceps, dit-il. Cette langue natale, dont parlait Gaston Miron, que l'auteur cite d'ailleurs à la fin de son livre. Pas plus que Miron, Delaconté n'est un puriste. Sa langue n'est pas tout à fait celle de Malherbe qui, dit-il, serre trop le corset. Mais c'est encore moins celle de la soumission. C'est au nom de l'insoumission politique et linguistique que j'ai écrit ce livre, dit-il. Non pas contre l'Amérique, mais contre la soumission à l'Empire américain et au matérialisme ambiant. L'envahissement de l'anglais n'est qu'un aspect. L'essentiel, c'est que la langue française perd son âme si elle quitte ses fondations premières, qui sont la poésie et la volonté politique. Car le français n'est pas tout à fait une langue comme les autres. Dès sa naissance, il eut partie liée avec la littérature et la beauté, comme l'a montré le linguiste Bernard Cerchiglini. Avant d'être la langue d'une population ou d'une région, le français fut une langue de clercs. Le proto-français naquit en effet au 9e siècle avec les serments de Strasbourg et la cantilène de Sainte-Eulalie. Le français est d'abord un acte politique et poétique, dit Delaconté, ce qui impose un rapport particulier à l'esthétique. La création de l'Académie française est représentative de ce lien que le français entretient avec la politique. La beauté doit servir la politique. Or, aujourd'hui, ce lien fondamental se dissout. C'est pourquoi je suis totalement opposée à l'écriture inclusive qui signe l'arrêt de mort de la poésie et très rétif devant la novlangue et l'invasion de l'anglo-américain dans la langue courante. Avec le climat d'une forme de matérialisme outrancier, de la technicité envahissante qui tue le ciel, cette langue perd son cœur, elle se rabaisse et s'aplatit. C'est à ça que je m'en prends. Pour cet écrivain passionné par la littérature de la Renaissance et qui compte une vingtaine d'ouvrages à son actif, la langue française est aussi liée à une certaine idée de la grandeur. « Il est difficile d'employer ces mots aujourd'hui, dit-il. On passe pour un facho ou un facho. Or, cette idée de La grandeur de la langue est en train de s'effondrer. Depuis des siècles, la France a été portée par sa littérature. Elle a été perçue comme la patrie du livre. Leur abandon me semble emblématique d'un abandon plus large au sein de l'école. Pardon. Pourtant, l'écrivain, qui a aussi été pendant 20 ans au service de la diplomatie culturelle française au Japon et en Israël, ne désespère pas. Il reste, dit-il, des lieux de résistance où l'on entend un excellent français. Il pense au prétoire où règne encore une certaine éloquence. Sur le net, de nombreux sites sont rédigés dans une langue soignée. La langue de qualité, on la trouve aussi chez les professeurs et parfois même à la télévision. Si la littérature est souvent mince, elle a le mérite d'exister. De la Comté se réjouit aussi de l'étonnante popularité en France du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, qui veut restaurer la dictée et un grand oral à la fin du lycée. Les gens sentent que ce n'est pas une question secondaire. Dans beaucoup de familles, parler convenablement relève d'une forme de politesse et de respect de l'autre. Je suis sensible au souci du président Macron d'une langue qui a de la tenue. Est-ce que ça annonce quelque chose? On peut penser qu'il y a une volonté de redonner du souffle à la langue. De la Comté en a contre ceux qui identifient la correction linguistique à une forme d'élitisme. Aujourd'hui, si vous défendez une langue substantielle, volontaire qui tend vers la beauté, vous passez pour élitiste. C'est à partir de mai 68 que cette idée s'est répandue, dit-il. Pourtant, cette génération, la sienne, n'avait-elle pas été formée à la faveur d'un foisonnement littéraire et intellectuel qu'on ne peut même plus imaginer? Plutôt qu'une égalité par le bas à l'américaine, l'écrivain prêche une égalité par le haut à la française. C'est l'idée de Richelieu et de Malherbe de faire en sorte que le poissonnier et le noble puissent se comprendre. À cette époque, parler une langue rigoureuse et de qualité devint une exigence de l'unité nationale dans le cadre du rapprochement entre protestants et catholiques. La beauté dans tout cela, c'est que pour peu qu'il y ait une éducation, nous sommes tous égaux devant la langue. L'égalité par le bas ne serait d'ailleurs qu'une illusion. On ne va pas rendre la langue hospitalière en la dénaturant et en l'abaissant. Une langue pauvre vous enchaîne. Elle devient vite un instrument de domination idéologique, alors qu'une langue riche permet de conceptualiser et donc d'être libre. Il en va de la démocratie et de la possibilité de penser librement et par soi-même. Que pense l'écrivain qui a parcouru le monde de l'avenir du français que l'on dit aujourd'hui en Afrique? Je ne suis ni souverainiste ni mondialiste, mais j'accepte le monde comme il est. Mon raisonnement est d'une simplicité biblique. Il faut renforcer la langue et l'image que nous avons de nous-mêmes. Cette fierté est nécessaire pour affronter la mondialisation. Je n'ai rien contre le métissage. Il faut être hospitalier, mais pour l'être, il faut avoir une maison solide. Après, on peut se mélanger. Jean-Michel de la Comté rappelle qu'il y a quelques années, le grand spécialiste de la littérature du Moyen-Âge, Michel Zinc, avait mis ses compatriotes en garde contre une fragmentation du français semblable à celle qu'a connue le latin à la fin du premier millénaire. « Pour moi, il faut un chêne. C'est la langue française dans sa dimension classique. Alentour de ce chêne fleuriront toutes les langues franco-africaines. Ce que je reproche aux souverainistes, c'est de ne vouloir que ce chêne. Ce que je reproche aux mondialistes, c'est qu'ils ne veulent plus de chêne du tout. Je ne vois pas pourquoi il faudrait s'effacer au profit d'une langue du vaste monde qui n'aurait plus d'ancêtres. Restons nous-mêmes pour accepter l'autre et dialoguer. Pourquoi le rapport à l'altérité passerait-il par un effacement de nous-mêmes? Point d'interrogation. C'était donc, en cette Journée internationale de la francophonie, une lecture du texte « Pour un Français fier de lui-même, le français ne doit pas perdre son âme », dit Jean-Michel de la Comté, texte dans Le Devoir d'aujourd'hui, de Christian Rioux. Voilà, c'est tout. C'était la dernière édition du quotidien de l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du printemps 2010. Non, non, c'est l'édition de l'hiver, donc 2017-2018, hein, parce que l'hiver commence en décembre 2017 et finit maintenant, dans quelques minutes, parce que le printemps, c'est à midi 15. À demain!